9h, 11h.
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. Nous sommes ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question en compagnie de Julie. Bonjour Julie.
Bonjour.
Et de vos témoignages au standard dès que vous le souhaitez au 39-21. Alors que votre émotion a été palpable sur les réseaux sociaux, notamment après les actes antisémites des derniers jours. Dans ce contexte, ce matin, 13 ans exactement après, se déroule l'hommage à Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois. 13 ans après sa mort, il a été retrouvé dans cette commune sur le bord de la route, agonisant après 24 jours de torture parce qu'il était juif. Des croix gammées sur des portraits de Simone Veil à Paris, des inscriptions nazies encore sur une boutique cachée. Que disent ces actes graves de notre société? Vous réagissez et nos invités vous éclairent sur le sujet. Et puis à 10h, je reçois un médecin nutritionniste qui nous dit comment mieux manger sans se priver, mais de la manière la plus saine, la plus naturelle possible. Il publie « Mieux manger pour les nuls ». Jean-Michel Cohen nous prend par la main le temps d'un voyage culinaire et vous retiendrez des principes, des recettes bien sûr et des réflexes. Là encore, vous pouvez échanger avec lui au 39-21.
9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et Ilan Halimi, ce 13 février, 13 ans après, SOS Racisme qui appelle chaque citoyen à se mobiliser aujourd'hui à Sainte-Geneviève-des-Bois, à l'endroit où le corps du jeune homme a été retrouvé. Pour réagir d'abord à cette actualité, j'accueille le grand rabbin de France. Bonjour Chaim Korsia.
Bonjour.
J'apporte une précision dans le contexte de cette commémoration, Chaim Korsia. Un arbre planté en mémoire d'Ilan Halimi avec sa photo entièrement coupée, l'autre à moitié saccagée. Pourquoi tant de haine? C'est ce que vous vous dites au quotidien.
Oui, et puis les photos de Simone Veil taguées avec une croix gammée, les magasins, vous en avez parlé. Mais tous ces panneaux dans les défilés, toute cette haine contre des joueurs de football qu'on associe aux juifs, on se demande pourquoi. Et toute cette. Et vous savez, peut-être pire que tout, le fait que personne dans les défilés, par exemple, n'aille enlever ces panneaux. N'aille dire ce n'est pas possible que vous fassiez ça. Donc c'est à la fois cette haine et à la fois le risque de l'indifférence d'une partie de la population.
Oui.
Et là, ce sursaut collectif me semble être digne de la France. Il faut juste que ce sursaut ne soit pas ponctuel, mais qu'il enclenche quelque chose de plus pérenne. Il faut affirmer que c'est une lutte permanente, il faut en fait se battre. Et la posture de la République, c'est toujours le combat. La République, c'est un rêve qui n'est jamais fini. Et donc, il passe aussi par la défense des libertés de chacun, par l'affirmation de la stricte égalité de chacun. Et donc, une attaque antisémite, tant qu'on n'a pas la conviction que c'est insupportable, alors on ne peut pas, réellement lutter. Et sur cet arbre, Ilan Halimi, c'est un drame terrifiant. Cet arbre, je disais ce matin à Jean-Pierre Alcabache sur son émission, que si on se décidait que dans chaque mairie, on plante des arbres à la mémoire d'Ilan Halimi, si on décidait que le président de la République, par exemple, dans le parc de l'Élysée, plantait un arbre à sa mémoire, mais et même s'il venait encore les couper, on en planterait 100. Bah, à la fin, ils abdiqueraient. Ce n'est pas à nous d'abdiquer. C'est aux antisémites, car ils n'ont pas leur place dans la République, aux racistes. Je le disais ce matin, ce sont des terroristes pour moi.
Le fait est que, Chaim Korsia, le plus pervers avec cet antisémitisme, et on va en parler largement jusqu'à 10h, c'est qu'il n'a pas de visage, que le nombre de faits portés à la connaissance de l'autorité judiciaire reste limité. On parlera de cette explosion des actes antisémites, plus de 74%, mais qu'on n'a pas d'études sur le profil des auteurs, sur leur motivation, sur leur parcours idéologique. Simone Veil parlait de nazis au petit pied, mais on est dans tout et n'importe quoi dans les auteurs de ces actes-là.
Oui, vous avez raison. Et en plus, maintenant, il pousse à lâcheté de l'anonymat jusqu'à viser les morts.
Oui.
Simone Veil, Ilan Halimi.
Les profanations.
Et vous savez, hier, j'étais à la remise du prix Ilan Halimi, chez le Premier ministre. Madame Fraîche, qui a écrit un livre avec la maman de Ilan Halimi, avec Ruth Halimi, a dit quelque chose de terrifiant. Elle a dit, Ruth, vous aviez dit, au bout d'un an, je veux retirer mon fils d'ici pour aller l'enterrer en Israël, car je ne veux pas que ces bourreaux, le jour où ils sortiront de prison, aillent cracher sur sa tombe.
Oui.
Et tragiquement, elle a tragiquement raison. Et donc, il y a quelque chose à défendre, je dirais collectivement, et il y a une avocate qui s'appelle Maître Jacob, que j'ai entendu exprimer une idée formidable. Oui, à l'anonymat d'Internet, c'est le principe, mais il faut que la justice ait plus de facilité pour accéder, pour lever cet anonymat en cas de déclaration haineuse, raciste, anti-blanc, anti-noir, anti-juif, anti-musulman, anti-féminin, anti-homosexuel. Cette haine qui se déverse sur la société, elle ne peut pas être segmentée. Vous ne pouvez pas être haineux sur votre clavier et redevenir gentil en situation de vie réelle. Et je pense que la frontière entre la vie réelle et la vie virtuelle devient de plus en plus poreuse. Donc il faut être capable de donner les moyens à la justice de lever cet anonymat. Je ne dis pas de le lever en permanence, parce que ça fait aussi partie de la vox populi. Mais il faut que cet anonymat soit disponible, si vous voulez, pour la justice, pour qu'il n'y ait pas d'impunité sur Internet. Et donc, pour qu'on n'ait pas le sentiment d'impunité dans la vie réelle.
Oui, car Internet, vous le dites bien, Raïm Korsia, a libéré aussi la parole antisémite. On va y venir en réécoutant le Premier ministre que vous avez rencontré hier. Et Denis Péchanski, qui est notre invité en studio, historien, directeur de recherche, nous parlera aussi de ces mouvements sociaux, de ces mouvements de foule, notamment les Gilets jaunes. Pourquoi ce sentiment raciste, antisémite, peut naître aussi dans ces différents cortèges. Raïm Korsia, un des fils de Simone Veil, a réagi hier sur ce poison de l'antisémitisme avec ces mots. Quand une société va mal, les juifs sont les boucs émissaires idéaux. Et c'est vrai que vous le dites, que la communauté à chaque fois le martèle. Et vous avez raison, s'attaquer aux juifs, c'est s'attaquer d'abord aux juifs, mais pas seulement aux juifs.
Oui, alors c'est pas qu'on ait une sorte d'orgueil de dire on est chouette, on est les premiers attaqués. La réalité, c'est qu'il y a une haine de l'autre. Et l'autre qui est le même que nous, dirait Poliakov ou dirait Paul Ricoeur, c'est la même thé, c'est-à-dire c'est le même que nous, mais il est différent. Et donc le premier qu'on veut extirper du corps social, c'est le juif. Parce que vous comprenez, ensuite les autres racines viennent automatiquement, mais ils ouvrent la porte à la haine. Et vous savez, je vous le dis à vous qui êtes une grande journaliste, les journalistes aussi commencent à être décriés. Les politiques, est-ce que vous croyez qu'on peut accepter décemment dans notre République que des domiciles d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques soient saccagés, soient brûlés, que des journalistes soient menacés chez eux. Donc il y a quelque chose d'insupportable dans cette violence. Il faut qu'on se remette en cause tous. Nous avons tous laissé parler les punchlines, les petites phrases, plutôt que la pondération. Je ne veux pas jeter l'opprobre sur les uns les autres, j'en ai autant à mon égard. Mais on veut tellement faire quelque chose qui dit mieux que les autres ou plus que les autres, qu'on n'a plus de limite.
Bien sûr, mais c'est intéressant ce que vous dites, Raïm Korsia, parce que puisqu'on se pose la question aujourd'hui sur Europe 1 de ce que disent les actes antisémites de notre société, quand vous dites qu'on s'en prend aussi aux symboles, l'arc de triomphe saccagé par exemple, les portes des ministères, on est là-dedans, on est exactement aussi dans le même symbole.
Exactement. C'est-à-dire que comment on peut dire à quelqu'un, t'as pas le droit de... on le laisse finalement, on laisse casser une porte de ministère, ce qui est terrible, on laisse profaner, souiller l'arc de triomphe, et à côté de ça, on dit, ah non, les juifs, tu peux pas faire. Donc, mais non, parce qu'une fois qu'on laisse ouvertes les portes de la violence, il n'y a plus de limite. C'est le principe même d'une société de parole opposée à la société de violence. Moi, je pense qu'il faut remettre cette responsabilité de chacun, de chacune. Est-ce qu'on laisse faire autour de nous la violence? Si on laisse faire, alors on n'est pas légitime à dire non. Et moi, je pense qu'il faut d'urgence, mais vraiment d'urgence, être capable d'avoir une mobilisation collective pour dire on n'accepte pas. C'est-à-dire que, oui, dans un défilé, quelqu'un s'arrête et dit vous, là, avec votre pancarte, vous sortez du défilé tout de suite et on fracasse la pancarte.
Absolument.
Si on fait ça, c'est-à-dire que s'il y a un réveil du corps social, alors on retrouvera l'élan. N'oublions jamais cela, c'est Serge Klarsfeld qui le rappelle. Pendant la guerre, il y a eu 76 000 juifs déportés à partir de la France. Seuls 2500 sont rentrés. Mais il y a eu, seul pays occupé par les nazis, trois quarts des juifs sauvés par des braves gens, par les justes. Et moi, j'en appelle à la justice, c'est-à-dire à la capacité de réaction de l'ensemble de la société.
La réaction du corps social,
par exemple,
merci.
Inviter un évêque, inviter un imam, inviter un pasteur, inviter un préfet, qui eux aussi ont quelque chose à dire de l'antisémitisme. Parce que si chacun se sent concerné, alors il n'y a plus d'indifférence. C'est Elie Wiesel qui disait cela, et je ne veux pas monopoliser la parole, mais vous me donnez l'occasion de le dire. Elie Wiesel disait, l'inverse de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Et toute l'histoire de la société française s'est construite sur la non-indifférence. Je ne suis pas indifférent parce que je suis fraternel. Je veux être fraternel. N'oubliez pas qu'on a rajouté la fraternité bien plus tard. En 1848, on a rajouté la fraternité à notre devise. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que si on voulait se battre que pour l'égalité et la liberté, c'était une France réduite aux acquis. Je refuse cette France. Il faut rajouter la fraternité et la faire vivre.
Et je prends l'engagement devant vous et devant nos auditeurs de vous offrir une émission écuménique, laïque, sur cette réaction que vous appelez d'urgence, se mobiliser contre toutes ces formes de violence, à commencer par les violences antisémites. Merci Raïm Korsia de votre analyse, de votre éclairage ce
matin.
Bonne
journée, merci beaucoup.
Merci beaucoup. On se retrouve avec l'expertise dans un instant d'un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, puisque vous en parliez. Il est historien, directeur de recherche au CNRS. On va analyser avec lui ces actes antisémites qui nous inquiètent. Et puis, nous recevrons Dominique Sopo, président de SOS Racisme, qui appelle chaque citoyen à se rassembler aujourd'hui en souvenir d'Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois. Merci de nous dire ce que vous pensez du contexte du moment. Encore une fois, vous avez été très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. On vous attend avec Julie.
On vous a posé cette question sur Facebook. Est-ce que les actes récents antisémites vous inquiètent tout particulièrement? Vous répondez oui en majorité, à 69%, comme Martine qui est très inquiète. La bête noire est toujours là, dit-elle, nourrie par l'extrême droite et l'extrême gauche. Nicolas, oui, ça m'inquiète. Je ne veux pas d'une France renfermée sur elle-même. La peur de l'autre ne mènera qu'au chaos. Et Christine, naturellement, c'est inquiétant. L'antisémitisme est un racisme comme tant d'autres. On dirait qu'il est devenu naturel dans notre pays de détester l'autre, son voisin ou son collègue, sous n'importe quel prétexte.
On a entendu le discours très républicain du grand radin de France, Raïm Korsia. Et j'accueille maintenant Denis Péchanski, historien, directeur de recherche au CNRS. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Je pourrais aussi vous lire un certain nombre de témoignages assez nauséabonds, je dois le dire, y compris sur notre page Facebook. Je vais en lire un que je peux lire, celui d'Alex, qui nous dit « L'antisémitisme est un leurre pour détourner l'attention et décrédibiliser les gilets jaunes. Pourquoi ne parle-t-on pas des actes antichrétiens et des églises saccagées et pillées ?» Si, monsieur Alex, nous en parlons heureusement. Mais il y a tout un tas de commentaires aussi qui traduisent cette parole qui se libère et pas forcément dans le bon sens, Denis Péchanski, en tout cas pas dans le sens républicain tel que nous l'entendons.
Oui, je pense qu'on vit une période qui montre évidemment une série d'indices comme ces actes antisémites dont vous avez parlé, mais aussi un abaissement de la réactivité. Je veux simplement mettre en comparaison, en parallèle, la réactivité qu'on a eue après Carpentras.
Oui. Bon,
c'était des tombes juives qui avaient été saccagées en 1990. Et là, vous aviez une manifestation énorme dans Paris. Bon, après Mera, ou bien là, après Halimi, ça bouge un peu. Mais enfin, à part des juifs qui sont sortis dans la rue pour protester, personne. Alors donc là, il y a un vrai problème et puis un degré d'acceptabilité. Ça, pour moi, c'est un indicateur très fort. C'est-à-dire que quand la parole de l'autre qui s'exprime de dénégation, de refus, de haine, de rejet, d'antisémitisme est acceptée simplement, quand même l'individu qui pense ça se sent autorisé
à le dire.
Oui. Là, la limite est franchie. C'est un indicateur majeur. C'est comme si vous prenez le métro, vous tombez sur des gens qui... ils disent quelque chose de raciste ou antisémite. Bon. Soit on se tait, ça c'est très mauvais signe, soit quelqu'un intervient et il y a une certaine réactivité, une mobilisation. C'est pour moi un indicateur très fort.
Mais est-ce que c'est favorisé par ces mouvements de foule, par ces cortèges, les grandes manifestations? En l'occurrence, ces croix gammées, ces tags terribles ont été commis en marge ou en queue de cortège. En tout cas, voilà, il y avait du monde. Quoi. Il y avait du monde. Est-ce que cette bête immonde, justement, profite
parce
de ces mouvements?
Bah, si vous voulez, l'antisémitisme en France, pas qu'en France, est comme un vieux fond de sauce. Qui simplement... de façon récurrente, sur les périodes, dans les années 30, aujourd'hui, au début du XXe siècle, vous avez un pic qui souvent est lié à un mécanisme très traditionnel de bouc émissaire face à une crise, crise sociale, crise économique, crise idéologique, crise politique, et on va chercher un responsable. Alors, a priori, on va chercher le juif. Bon. Et après, ça s'articule...
Après, le responsable dans les cortèges, pardonnez-moi de vous couper, c'est Emmanuel Macron. Comment arrive le juif?
C'est symptomatique. Je veux dire, alors, vous prenez les manifestations soit actuelles, soit les manifestations d'hier de la France Insoumise avec Ruffin. Vous avez des panneaux où il y avait marqué, entre autres, Mac Aaron. Voilà. Donc Macron, Aaron, donc le juif. Et ça, vous trouvez plusieurs panneaux de ce type-là, et, ou bien des caricatures avec le nez crochu, avec la référence à l'État d'Israël. Donc là, on trouve cette articulation-là pour Macron, dont on chercherait bien les origines juives. Ouais. Donc on voit bien que derrière, faire appel à ces stéréotypes-là, à cette haine-là, est un facteur de mobilisation des haines. Mmh. Et d'articulation des haines. Et c'est ça qui est très symptomatique. Et Rabin Corcia l'a très bien évoqué, effectivement, dans un discours que je trouve très, très républicain, parce que évoquant cette cohabitation, convergence dans un discours de haine, c'est quand même très caractéristique. Et c'est nourri, on le sait, par cette révolution des réseaux sociaux.
Et pas que. On parlera évidemment de l'antisémitisme de droite et de gauche, extrême droite, extrême gauche. Puisque vous citiez Rahim Corcia à l'instant, j'aurais que nous réécoutions ensemble avant une petite pause d'Anne Fidorvilleur, femme rabbin du mouvement libéral que vous connaissez peut-être et qui a publié une enquête sur l'antisémitisme. Elle était au micro hier sur Europe 1 de Nikos Aliagas qui lui demandait ce qu'elle dirait en face à face au président de la République. Écoutez.
Moi, j'ai pas tant à dire à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe qu'à tout un chacun, en réalité. Parce que je crois que les pouvoirs publics, depuis des années, ils mettent en place des plans. Et on voit bien que la problématique, c'est pas tant la parole politique institutionnelle que la façon dont les citoyens vont s'en emparer. Moi, je me pose la question et je rêve ce matin à ce qu'il y ait, oui, une réaction nationale. Il se trouve que de semaine en semaine, il y a des gens dans les rues, aujourd'hui, en France. Je rêve d'imaginer que peut-être samedi prochain, le thème de cette manifestation, les panneaux qu'on y verra, seront des panneaux qui diront, d'une certaine manière, « not in my name ». C'est-à-dire que des gens pourront dire
«
pas en mon nom », c'est pas notre haine qui doit s'afficher ici, que ces gens qui manifestent semaine après semaine puissent aujourd'hui dire hautement, clairement, comme toute la population française, que c'est leur combat, c'est pas celui des pouvoirs publics et c'est pas celui des juifs.
Voilà. Combat personnel aussi, Denis Péchanski. Hein.
Oui, je suis une femme exceptionnelle, mais sauf qu'on a un petit problème. On a un petit problème, c'est qu'il y a un sondage qui vient de sortir, une analyse extrêmement poussée de Conspiracy Watch et donc l'analyse du conspirationnisme et du complotisme en articulation avec la Fondation Jean Jaurès et avec l'IFOP.
Oui.
Et on a, par exemple, on a tous les indicateurs de complot, hein, les plus divers, mais je prends deux chiffres. Il existe un complot sioniste international. 22% des Français, le quart des Français quand même. Et 44% des personnes qui se disent gilets jaunes.
Qui pensent qu'il y a un complot aux
juifs. Oui. Et si vous prenez l'immigration est organisée par l'État français pour préparer le grand remplacement de la population actuelle par la population, une population musulmane, vous avez le quart des Français, 25%, qui pensent ça, et vous avez 46% des gilets jaunes. Donc là, vous avez un phénomène qui est un phénomène qu'on doit analyser. Alors on peut rêver avec... ce qui vient d'être envisagé. On aura peut-être certaines réactions ici ou là. Évidemment, ça ne veut pas dire que tous les gilets jaunes sont antisémites, sont complotistes, etc. Mais il est quand même très, très travaillé par cette problématique.
Denis Péchanski, merci de ces précisions. Juste après la pause, on va entendre ensemble le discours de Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Catherine nous appelle de Saint-Julien, les Montbéliards, et veut réagir au 39-21 sur ces actes antisémites en augmentation de 74% l'an passé sur les actes des dernières semaines. Que disent-ils de notre société précisément ? C'est la question qu'on soulève jusqu'à 10h avec vous sur Europe 1 et Julie, bien sûr.
Comment lutter contre la résurgence des actes antisémites en France ? On en parle jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et son invité. Tiens, on a un message sur Facebook.
Oui, absolument.
De Sophie, si un tag d'un jeune con peut mettre en péril notre République, c'est qu'il y a un problème ailleurs.
Bah peut-être. C'est la question que nous posons maintenant à Dominique Sopo. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Vous qui êtes président de SOS Racisme, vous appelez car nous sommes 13 ans après la mort d'Ilan Halimi à un rassemblement en souvenir de sa mémoire à Sainte-Geneviève-des-Bois. Vous avez entendu nos échanges depuis tout à l'heure, on va vous donner la parole plus précisément. Mais pour revenir sur ce que vient de dire Sophie, c'est des choses qu'on a lues aussi sur Internet. C'est un tag, oui, mais c'est un tag, c'est pas n'importe lequel, c'est une croix gammée, pardon. Et c'est sur un visage français, républicain, le visage d'une femme revenue de l'enfer, celui de Simone Veil. Est-ce que vous pouvez répondre à Sophie ? Si un tag d'un jeune con peut mettre en péril notre République, c'est qu'il y a un problème ailleurs, Dominique Sopo.
Je ne pense pas que ce soit le tag qui mette la République en péril, mais en tout cas, c'est un symptôme qui est assez spectaculaire, parce que quand même, aller chercher la figure de Simone Veil, qui est une femme qui est aujourd'hui décédée, qui est une rescapée de la Shoah, qui est une personne qui a eu un engagement humaniste dont personne ne peut douter à aucun moment de sa vie, qui s'est battue contre la torture en Algérie, on l'oublie aussi parfois, qui s'est battue pour l'Europe, pour la démocratie. Aller mettre une croix gammée sur le visage d'une personne morte, par ailleurs, c'est quand même un acte qui est un symptôme assez particulier, parce que la croix gammée sur une personne qui est revue des camps de la mort, ce n'est pas n'importe quel geste. Et donc, il ne faut pas le voir, c'est pas le problème du tag en question, c'est sur ce qu'il montre d'une hargne, d'une haine, tout comme vous parliez du rassemblement en mémoire d'Ilan Halimi, qui est un rassemblement annuel d'ailleurs, dont nous espérons que cette année il sera un peu plus suivi, aller scier un mémorial d'une personne qui est morte entre les mains de bourreaux antisémites. Enfin, il faut quand même, c'est quand même des passages à l'acte qui ne sont pas des passages négligeables. Il faut quand même y aller avec une petite scie électrique pour aller couper un arbre. Enfin, il faut quand même se déplacer, prendre un outil, faire le geste. Il y a quelque chose là qui est inquiétant. Enfin, ça n'est pas un élément qui vient dire qu'il y aurait davantage d'antisémitisme qu'il y a un an ou deux ans. Je ne pense pas que les gens deviennent brutalement antisémites. Mais il y a des autorisations qui font que, eh bien, il y a ces passages à l'acte. Et c'est ça qui, me semble-t-il, est inquiétant, avec une forme de coagulation de toute une série de formes d'antisémitisme assez éparses qui se retrouvent dans une forme de logique anti-système, anti-pouvoir. Et évidemment, l'association du juif au pouvoir est une vieille figure de l'antisémitisme, d'où d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de l'association entre Macron et les juifs. Bah, c'est bien cette association entre les jujuifs et le pouvoir, et être contre le pouvoir, être contre le système, eh bien, ce serait être contre les juifs. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que cette coagulation-là, elle est quand même extrêmement inquiétante, d'autant plus qu'elle renvoie à une période de trouble sur où va le monde, où va la société, avec des difficultés de décryptage manifestement, et l'antisémitisme et la figure du bouc émissaire à travers la figure du juif est quand même l'arme des faibles, parce qu'effectivement, et Denis Péchanski en parlait, c'est une figure qu'on va souvent chercher, parce que c'est une figure éprouvée qui quelque part économise du temps de cerveau, parce qu'il n'y a pas grand-chose à aller réfléchir pour Dominique aller chercher Sopo. La figure du juif et tous ses fantasmes.
Dominique Sopo, les agressions sur les personnes ont bondi, sur les personnes juives en l'occurrence, ont bondi de 89% l'an dernier. Les chiffres de la montée de l'antisémitisme qui ont été révélés hier par le ministre de l'Intérieur, des actes en augmentation pour la globalité de 74% en 2018. Écoutez Christophe Castaner qui est allé déposer une bougie à l'endroit où le corps agonisant d'Ilan Halimi a donc été retrouvé il y a exactement 13 ans.
L'antisémitisme se répand comme un poison, comme un fiel. Il attaque, il pourrit les esprits, il assassine.
Christophe, vous êtes avec nous au 39-21, vous nous appelez de Rennes. Bonjour Christophe.
Bonjour Wendy, bonjour à tous.
Je suis très heureuse d'avoir votre témoignage parce que je viens de recevoir votre petite fiche et vous nous signifiez que vous étiez aux obsèques d'Ilan Halimi il y a donc 13 ans. C'est dire que le sujet vous préoccupe et que vous avez probablement une vision aussi sur la question que nous posons.
Absolument, oui, j'étais aux obsèques en 2006 et croyez-moi, il y avait Monsieur Chirac qui était là, il y avait son épouse aussi et c'était un moment très fort. Donc c'est vrai que ce qui s'est passé ce week-end, à mon sens, est à la fois inepte, cruel et tout à fait condamnable.
Je peux vous demander pourquoi vous étiez aux obsèques d'Ilan Halimi, justement comme citoyen républicain engagé contre la barbarie ?
Parce que je me sentais d'abord concerné personnellement, à mon sens, qui touche un juif, qui touche un être humain, qui touche qui que ce soit, détruit l'humanité.
Christophe, on vous a perdu, mais j'espère vous retrouver très vite parce que le discours était fort. Allez-y Christophe, qui touche un être humain, détruit l'humanité.
Détruit l'humanité. Et à mon sens, ce qui se passe là depuis un moment, la séquence est longue ou par intermittence, mais ça, à mon sens, ça prouve qu'il y a une société malade. Elle n'est pas convalescente, elle est malade. Elle manque de sens, elle manque de connaissances sur l'histoire. Mmh. Et je pense que dans les moments de frustration, il lui faut à cette société des boucs émissaires pour pallier les manques, qu'elle ressent. Et c'est presque devenu naturel de dire forcément c'est la faute d'un tel ou une telle, c'est la faute du juif, c'est la faute de l'arabe, c'est la faute de la femme, du noir, du gay. Et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. On connaît l'affaire Dreyfus, on connaît la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, mais c'est presque devenu naturel de dire ça ne va pas, c'est forcément la faute, par exemple, du juif.
Oui, alors que nous avons cette histoire collective en mémoire, ce devoir de mémoire. Christophe, je vous interromps et vous restez avec nous juste après la pause. Je voudrais vous faire réagir et donner encore du temps à votre témoignage sur cette société malade avec Denis Péchanski et Dominique Sopo sur Europe 1.
Des actes antisémites à répétition ont eu lieu en France ces derniers jours. Nous en parlons jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et son invité, l'historien Denis Péchanski, directeur de recherche au CNRS et auteur du livre « La vérité du témoin » aux éditions Hermann.
Je voudrais vous faire réagir, Denis Péchanski, à ce que disait à l'instant Christophe, qui est toujours en ligne, notre auditeur de Rennes, qui avait assisté il y a 13 ans maintenant aux obsèques d'Ilan Halimi. Il nous parlait de cette société malade. Et en écho à son témoignage très fort, j'ai les mots d'Anne-Sophie. « Rien de nouveau, les actes antisémites sont juste plus médiatisés, dit-elle, que ceux contre les édifices catholiques dernièrement. » Ça pointe le fait qu'il y a bien des composantes très multiples dans l'antisémitisme version 2019, si j'ose dire, Denis Péchanski.
Vous avez tout à fait raison. Alors, le fait qu'il y ait effectivement d'autres actes de rejet de l'autre, on pourra y revenir, parce que c'est important. Ouais. C'est jamais isolé, ou rarement isolé, l'antisémitisme. C'est articulé avec d'autres formes de rejet. Mais en même temps, on a, dans l'histoire, différentes composantes qui émergent. Alors, traditionnellement, on avait l'antijudaïsme chrétien, dont on peut imaginer qu'il y a quelque chose derrière cette l'affirmation de votre auditrice, finalement, derrière les Juifs, c'est les assassins du Christ. Ça a été très, très fort, 18e, 19e, début 20e, vraiment très fort. Et ça reste comme petite musique de fond dans certains milieux. Et puis, vous avez eu un antisémitisme radical fondé sur les stéréotypes face à ceux qui étaient considérés comme une population qui faisait écrouler de l'intérieur la société, qui la pourrissait de l'intérieur et qui était responsable de sa décadence. Et ça, on a eu ça en continuité avec Drummond, avec quelques autres. Donc la France juive de Drummond, ou bien pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec le discours de Pétain, de Vichy, sur les responsables de la défaite. Qu'on va pas, évidemment, ce n'est pas les militaires, donc on va chercher d'autres. Et ceux qui sont responsables de la défaite, c'est ceux qui ont nourri le complot depuis la Révolution française. Ça, c'est une sorte de thématique traditionnelle de l'extrême droite, dont le juif, dont l'étranger, dont le franc-maçon. Donc là, vous avez quelque chose dont le communiste. Donc vous avez quelque chose là qui s'articule, qui articule les figures de l'autre. Et puis vous avez, depuis les années 60, avec le développement du mouvement palestinien, vous avez un antisémitisme qui a émergé à l'extrême gauche et qui maintenant a gagné au-delà d'extrême gauche et c'est une caractéristique du tout, vous savez, de toute l'extrême gauche ou de toute la gauche, bien entendu, comme l'autre n'est pas caractéristique de toute la droite, mais qui a des conséquences parce que ça joue sur les stéréotypes et ça n'est pas par hasard si ça n'est pas que dans les manifestations d'extrême droite qu'on a eu ces gestes et ces mots et ces images antisémites. Et là, ça s'est radicalisé, bien entendu, avec le djihadisme et ce qui s'est passé dans les banlieues. Bon, là, on a des segments de la société qui sont travaillés par un antisémitisme qui correspond d'ailleurs aussi à un repli identitaire. Et je me permets de revenir là-dessus parce que pour moi, c'est une clé. On vit une crise d'identité nationale dans la mesure où on a perdu la référence partagée aux valeurs issues de la Révolution française et relayées par la Résistance. Bon. Et qu'on a une sorte d'atomisation, d'explosion de la société, une perte des repères et tout ce qui est rejet de l'autre devient un élément moteur massif. Alors l'autre, c'est le juif, c'est le musulman, c'est l'homosexuel.
Ouais, c'est
et on a une explosion. Et ce qui serait le plus dangereux, et heureusement, ce n'est pas ce que j'entends de vos interlocuteurs, et c'est rassurant, ce qui serait le plus dangereux, ça serait une réaction communautariste. C'est-à-dire que les actes antisémites, ça serait une affaire des juifs. C'est eux, ils vont protester. Les actes anti-arabes, ça va être les arabes. Et ainsi de suite, avec simplement l'État qui dira c'est pas bien tout ça. Non, il faut que la société, dans son ensemble, se remobilise autour de ce grand corpus de valeurs partagées.
Ouais, merci beaucoup vraiment pour cet éclairage, Denis Péchanski, parce qu'on comprend mieux les choses, d'où cette urgence de la réaction citoyenne, sociale, nationale, vraiment globale que demandaient nos différents invités, Raïm Korsia, Delphine Horvilleur. Un tout petit mot, puis je vous donne plus longuement la parole après la pause, Dominique Sobo, sur cette société malade qu'a bien décrit à la fois Christophe, notre auditeur, et Denis Péchanski dans ses différentes composantes, car ce discours-là, malheureusement, on l'a eu après la tuerie à Toulouse, aux Aratora, on l'a eu après l'hypercacher, on l'a eu d'ailleurs après le drame de Charlie et les attentats du 13 novembre, ça revient tout le temps.
Oui, ça revient tout le temps, parce que de toute façon, on est face à une forme de poison, d'une certaine façon, et que ça renvoie effectivement à une société qui est déstabilisée. L'antisémitisme, il ne se loge pas n'importe quand, il ne s'exprime pas n'importe quand. Je disais tout à l'heure, on est sur des sociétés qui sont travaillées par des pertes de repères, et qu'il y a la question de la mobilisation de tous. Et je pense que par rapport à ce que disait Denis Péchanski, je ferais quand même une petite remarque. Il n'y a pas que les juifs qui réagissent lorsqu'il y a de l'antisémitisme. Personnellement, j'ai moi-même organisé une marche contre l'antisémitisme en 2004 face
avec
à
l'ensemble
des actes antisémites,
oui.
Avec SOS Racisme. En 2006, SOS Racisme était à l'initiative avec l'Union des étudiants juifs de France de la manifestation suite à l'assassinat d'Ilan Halimi. En 2012, nous avons manifesté à Paris suite au meurtre de Mohamed Merah. Donc, il faut aussi voir les réactions dans la société et les prendre comme des points d'appui, justement, au refus de logique de communautarisation des luttes, parce que si on lutte, c'est aussi au nom d'une conception de la société et donc au nom d'un universalisme de la dignité partagée entre tous les individus d'une société.
Dominique ?
Denis Péchanski, oui. Vous interpelle.
Oui. Vous n'avez pas l'impression quand même que le degré de mobilisation autour de vos manifestations est quand même très en dessous de ce qu'on a connu à d'autres périodes ? Comme par exemple au moment de Carpentras ?
Bien sûr que si, mais bien sûr que si, vous avez tout à fait raison de le dire, mais par ailleurs, on remarque que de façon générale, sur les questions de vivre ensemble, le degré de mobilisation est globalement bien moindre que ce qu'il a été dans le passé. Ça renvoie justement à cet éclatement et à ces enquistements dans la société qui font qu'il n'est plus évident, d'une certaine façon, de se mobiliser pour quelque chose qui relèverait du commun.
Alors, quelle éducation d'urgence en la matière ? On a parlé de la réaction, messieurs, et je vais donner la parole dans un instant à Catherine au 39-21. La sensibilisation auprès des étudiants, vous le faites, notamment de Denis Péchanski, dans les écoles, dans les quartiers. Comment on réagit autrement que par une loi que nous attendons, je crois, de pied ferme sur l'encadrement sur les réseaux sociaux et la levée en partie de l'anonymat ? On fait le tour de la question, n'hésitez pas à réagir. Que disent les actes antisémites de notre société ? En quoi cette augmentation vous inquiète, on vous donne la parole, Julie.
Au 39-21 et pour les réseaux sociaux, le hashtag Europe 1. En augmentation de 74% l'an passé. Alors, vos réactions à cette actualité, bien sûr, on l'attend au 39-21 et sur les réseaux sociaux. Wendy Bouchard.
Avec nos invités, Denis Péchanski, historien, directeur de recherche au CNRS, spécialiste notamment de la Seconde Guerre mondiale, de la mémoire, on va en parler évidemment, elle est si importante cette mémoire dans ces faits. Nous relayons Dominique Sopo, président de SOS Racisme, vous qui appelez avec votre association à un rassemblement aujourd'hui. Nous sommes 13 ans après la mort terrible d'Ilan Halimi, torturé pendant 24 jours par le bien nommé gang des barbares. C'était à Sainte-Geneviève-des-Bois et il y a une grande commémoration aujourd'hui où la famille, où l'association notamment vous attend nombreux. Inquiétant cette libération de la haine, écrit Christophe sur Facebook, à vomir pour Odile qui réagit au Croix-Gammée sur le portrait de Simone Veil. Une honte, ajoute Lionel, qui ose espérer la punition à la hauteur de cet acte minable qui donne la nausée. Alors j'ai retenu ces témoignages qui quelque part nous soutiennent, mais il y a tous les autres qui mettent en avant le complot juif dont vous parliez, Denis Péchanski. C'est 22% de Français, c'est 44% de Gilets jaunes qui pensent qu'il y a un complot juif. Il y a 4 ans, nous étions 4 millions dans les rues de France à nous soulever après l'abomination de la tuerie de Charlie et de l'hypercachère. Où est cette mémoire collective, commune?
Ça, c'est un indicateur très intéressant que vous pointez là, parce que finalement, l'histoire, elle vit avec des rythmes lents et puis une accélération. On se dit, après janvier, la grande manifestation du 11 janvier, 4 millions de personnes, la plus grande manifestation de tous les temps en France, plus grande. Bon, voilà, avec 130 chefs d'État, place de la République. On se dit là, on a marqué un point, il y a un vrai tournant, il y a une vraie mobilisation. Et puis, au bout de quelques temps, on a une autre musique qui émerge. On entend que finalement, dans la suite de janvier immédiate, il y a eu des problèmes dans le respect de la minute de silence. Parce que finalement, ce combat-là, c'était le combat de qui et pourquoi? C'est autour des valeurs partagées, oui, mais face à des attentats qui visaient des journalistes, qui visaient des policiers, qui visaient des juifs. Bon, à partir de là, est-ce que véritablement on était sensibilisés par ces questions-là? Bon, il y a eu, ça brouillait les
pistes,
ce qui n'était plus le cas, évidemment, le 13 novembre, où là, on était tous touchés, où donc là, il y a une vraie mobilisation, y compris de ceux, d'ailleurs, qui avaient sifflé dans les cours de récréation, et pas vraiment de récréation, d'ailleurs, au moment de janvier, et qui, là, sont mobilisés parce que, finalement, tout le monde était touché, la jeunesse en particulier, et au fur et à mesure, le souvenir de janvier a tendance, de façon assez étonnante, à s'estomper.
Oui.
Et dans le souvenir de janvier, tout le monde va penser Charlie. Qui pense à Hypercacher?
Dominique Sopo, je vous tends la main là sur ce que vient de dire Denis Péchanski, parce que vous, avec SOS Racisme, vous avez une opération formidable qui emmène des jeunes. C'est le programme Salam Shalom Salut, porté par de jeunes juifs et de jeunes arabes dans un tour de France. Racontez-nous aussi le principe justement de cette solidarité, voilà, pour reconquérir un peu cette mémoire,
oui,
justement.
Le principe, mais ça renvoie aux logiques d'éclatement dont nous parlions, c'est qu'on constate aussi malheureusement dans ces combats que, par exemple, la lutte contre l'antisémitisme peut être utilisée parfois de façon extrêmement perverse par des gens qui en fait sont intéressés par le fait de taper sur les Arabes. Et la lutte contre le racisme peut être utilisée contre des gens qui en fait vont utiliser cette lutte pour en fait taper sur les juifs. Et que quand on est dans cette perversité, eh bien ça vient contribuer à ce que l'on raconte, à savoir le fait de l'impossibilité de front commun contre les haines. Et ce qu'on a voulu faire, c'est mettre des jeunes juifs, des jeunes arabes qui sont sur des complexités identitaires, qui n'ont pas de problème avec la figure de l'autre, qui ne sont pas dupes non plus des problèmes qui se déroulent au sein des groupes auxquels ils appartiendraient, familiaux, communautaires s'il le faut, etc., et de tourner en France, chacun pour venir exprimer ensemble leur envie de vivre ensemble. Donc c'est quelque chose de positif, de jeunes qui parlent à des jeunes, c'est aussi des jeunes qui en général ne sont pas mis en avant, parce que je pense aussi que dans les luttes, il faut aussi mettre en avant ce qu'il peut y avoir de positif, pour que les gens puissent se reconnaître et puissent s'autoriser à être cela aujourd'hui dans la société. On parlait des réseaux sociaux. Ça peut être parfois très compliqué, lorsqu'on est jeune ceci ou jeune cela, de prendre tel type de position, parce qu'on voit qu'on va se faire tomber dessus par des nuées d'oiseaux malveillants qui vont venir dire « Mais attends, si tu prends telle position, au regard de ton identité, au regard de ton origine, tu ne peux pas prendre cette position parce que tu es un traître aux tiens ou parce que tu mets les tiens en danger. » Et donc, il faut aussi des figures qui autorisent le fait de se positionner de façon libre, de façon bienveillante par rapport à la figure des autres, voilà, c'est un peu l'idée de ce Tour de France qui d'ailleurs a donné de très beaux résultats,
oui, et
des très belles discussions avec les jeunes.
Qui se poursuit,
qui va se poursuivre pendant plusieurs mois.
Voilà,
encore.
Vous trouvez tout cela sur le site internet de SOS Racisme. C'est le programme dont j'aime beaucoup le nom, Salam, Shalom, Salut, porté par de jeunes juifs, de jeunes arabes. Nous avons un petit message juste avant la pause de Mathieu. Scandalisé, j'ai honte, dit-il, qu'on dise la France antisémite. On devrait parler d'une certaine France antisémite. On est bien d'accord, Mathieu. C'est ce qu'on fait, on ne fait pas d'amalgame sur ce sujet. Et nous avons notre commentaire. Martine, je suis de religion juive. Dès que mon nom apparaît sur les réseaux sociaux, je subis des attaques, mais je ne me laisse pas faire. Je dénonce. Hélas, personne ne fait jamais rien, ce qui revient au problème de l'encadrement des réseaux sociaux. Catherine a la parole dans un instant et Denis Péchanski et Dominique Sopo sont encore avec nous. Quelques minutes sur Europe 1.
Le tour de la question sur les actes antisémites dont nous sommes témoins en ce moment en France. Comment sensibiliser les plus jeunes? Comment empêcher les dérapages et sanctionner les coupables? Encore quelques minutes pour en parler, Wendy Bouchard.
Oui, nous avons beaucoup de messages au Standal, notamment Isabelle qui nous dit, Denis Péchanski, qu'il faut que la culture juive soit plus présente, par exemple dans les rayons des supermarchés, qu'on affiche davantage ces produits cachers, que pour les fêtes, on en parle. Alors, on avait fait, nous, une émission sur les fêtes, sur les rites juifs. Ça, c'est très important aussi, en effet, de donner à comprendre, de donner à apprendre. Idem pour la culture musulmane. On est dans cet échange. Vous êtes historien, Denis Péchanski, là, vous ne pouvez pas me dire le contraire, mais on a ce défaut de culture qui souvent suscite l'ignorance et parfois même des réactions dramatiques.
Oui, il faut donner à apprendre la diversité en même temps que la culture de cette diversité participe de la construction d'une unité. Et le pire serait l'affirmation identitaire et la clôture de ces communautés. Tout ce qui a été dit depuis une heure, finalement, va à l'encontre de cette clôture, et c'est une très bonne chose. Ce qui m'inquiète, en revanche, et on pourra y revenir si vous voulez, c'est la question des réseaux sociaux qui changent totalement la donne en matière d'accès aux médias et d'accès à la parole désinhibée.
Absolument, aux théories du complot, à la haine libérée. Écoutez, j'ai un auditeur qui vient de m'envoyer un petit message à l'instant, il s'appelle Alexandre Arcadiste, un grand réalisateur, grand cinéaste, et vous avez de manière spontanée, bonjour Alexandre.
Bonjour.
Vous écoutez depuis l'étranger cette émission et vous avez de manière spontanée souhaité aussi échanger avec nous et réagir, Alexandre Arcadiste. Parce que vous avez écrit,
vous avez
filmé la tragédie Halimi, 24 jours, c'était un film absolument bouleversant. On est 13 ans après sa mort, évidemment, le sujet vous touche plus que tout.
Vous imaginez bien combien je suis touché et bondé, comme toute la France, évidemment, face à cette recrudescence de l'antisémitisme et puis cette attaque délibérée contre un mort, contre une victime. Il faut se souvenir qu'Ilan Halimi a été la première victime assassinée parce que juive en France. Ça a été un déclencheur absolument incroyable. Et vous savez, quand j'ai fait ce film-là, j'ai adapté ce long métrage à partir du roman du livre que sa maman a écrit. Et elle disait une chose très importante. Elle disait : je ne veux pas que le corps d'Ilan reste en France parce que ma crainte, c'est de voir ces salopards, en sortant de prison, venir cracher sur sa tombe ou d'autres, bien sûr.
C'est ce que nous rappelait Raïm Corsia tout à l'heure, c'est très juste, Alexandre.
Et exactement. Et moi, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'effectivement, les morts ne peuvent pas se défendre. Mais nous, j'allais dire les vivants, nous les citoyens, nous les républicains, on veut se défendre et on sait se défendre. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que si toutes ces attaques antisémites vont dans un sens, c'est-à-dire d'un dégagisme, les juifs quitter la France, eh bien ils se trompent grandement, parce que nous sommes des Français républicains, nous voulons rester dans ce pays, c'est notre pays, et on se battra pour exiger tout ce qui est nécessaire pour combattre à la fois l'antisémitisme, bien sûr, mais le racisme, l'homophobie. Mais tout à l'heure, j'ai écouté quelqu'un parler des réseaux sociaux et parler de cette haine qui est propagée chaque jour par la clique Dieudonné et consorts face à des esprits un peu faibles, l'amalgame qui est fait entre l'antisémitisme, l'antisionisme, toutes ces choses, ces fléaux qui empoisonnent notre quotidien. Et il faut le savoir, ça empoisonne le quotidien de la communauté juive en France. Vous savez que les enfants... les enfants de ces familles juives ne vont plus dans les écoles républicaines, c'est ce qui est absolument, dans certains quartiers, absolument intolérable.
Et dans voilà, les cours d'école, c'est l'antisémitisme, en effet, dans certains quartiers.
J'avais juste envie de dire que nous n'avons pas envie et nous ne partirons pas de France au prétexte que certains veulent nous faire peur.
Eh ben, merci pour ce beau discours. Merci beaucoup. Ces discours forts, Alexandre Arcadie, et je rappelle 24 jours, votre film sur une famille dans le désarroi, la famille d'Ilan Halimi qui suit le calvaire de son fils. Dernier mot avec Dominique Sopo. Un mot, j'allais dire, de républicain, de citoyen, vous qui appelez avec SOS Racisme, chaque citoyen qui le peut à participer à partir de 10h à cet hommage à Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans ce contexte mortifère, on le rappelle.
Ouais, il me semble, et ça correspond un peu à tout ce qui a été dit effectivement dans l'heure qui vient de s'écouler, que les logiques de haine sont des logiques par rapport auxquelles il ne faut pas se laisser impressionner. Quand on milite, on a la certitude qu'à la fin, on gagne. Et moi, c'est quelque chose qui est profondément ancré. Je fais aussi confiance dans notre pays, en sa capacité à trouver des ressources du sursaut, à trouver des forces de sursaut. Parfois, notre pays est extrêmement surprenant et peut, au moment où on ne croit plus trop à la capacité à voir des forces de vivre ensemble se lever, eh bien, voir des citoyens qui, d'un seul coup, se lèvent.
On les souhaite.
Et donc,
merci.
Je pense que ce travail est à poursuivre.
Merci, Dominique Sopo, pour SOS Racisme. Et je remercie Denis Péchanski. Alors, on aurait pu bien davantage parler d'Internet, des réseaux sociaux. Vous avez vraiment raison. Heureusement, hier, Édouard Philippe, le Premier ministre, en remet mettant le prix Ilan Halimi de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, a commencé vraiment à ouvrir la porte sur cet encadrement de la haine sur les réseaux sociaux. On y reviendra. Merci vraiment de votre expertise. On rappelle votre ouvrage, La vérité du témoin, aux éditions Hermann, de Denis Péchanski. Merci pour tous vos appels. J'enverrai une boîte de chocolat à Catherine, je m'y engage, parce que vous deviez réagir, Catherine, et on n'a pas eu le temps de vous passer à l'antenne. Merci, à tout de suite, Julie.